institution. Dans l'immédiat, nous exigeons la suppression immédiate des peines de prison. Nos enfants ne veulent pas de leur mère en prison. La fin de l'arbitraire en matière de procès-verbaux. Plus d'amendes parce qu'on sait que telle personne se livre à la prostitution. Le respect des personnes dans leurs attitudes, leurs actes et, leurs paroles. Le collectif d'action des femmes prostituées de Lyon.
Cette lettre se trouve dans le zine que l'on lance ce soir. Aujourd'hui, on célèbre la première action qu'a complétée l'association Tulia. Donc Tulia, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a pour but de fournir de la documentation, de permettre la sensibilisation sur le sujet du travail sexuel. C'est une association communautaire, c'est-à-dire qu'elle est dirigée principalement par les personnes concernées, donc des travailleurs et travailleuses du sexe ou d'ex-travailleurs et travailleuses du sexe, mais elle intègre aussi des personnes alliées. C'est une association libriste et c'est à ma connaissance la première association libriste de travailleurs et travailleuses du sexe. Donc qu'est-ce que c'est une association libriste ? On va le un petit peu plus, mais en gros, pensez connaissance libre. Et donc l'usine, vous êtes libre de le distribuer, de le recopier, de l'amender, de le bonifier. Vous pouvez même le vendre, vous pouvez même mettre votre logo dessus. Vous devez juste citer qu'il a été d'abord créé par Tulia. Et vous devez le distribuer sous la même licence, donc sous le même. Vous pouvez pas mettre un copyright dessus, interdiction de reproduire. Nous, ce qu'on souhaite faire à Tulia, c'est de libérer un maximum de connaissances et de connaissances basées sur de la science, sur des faits, comme on dit, particulièrement en cette époque troublée chez nos collègues américains américaines. Tulia a cette ambition, on ne veut pas nécessairement faire de plaidoyer, on fait de la défense des droits, mais principalement en fournissant des documents, en fournissant des outils, en fournissant des études, en fournissant des putothèques, donc de la documentation. Je salue ta putothèque au passage, qui m'a inspirée pour le reste de ma putothèque. Donc voilà. Le choix ce soir, c'est pas de passer à travers l'usine que vous aurez l'occasion de consulter vous-même dans le calme ou au milieu des transports publics lyonnais, mais c'est plutôt de présenter comment il a été construit, comment l'idée est venue, et puis de présenter aussi un petit peu des choses hors usine, des choses qui n'ont pas pu être incluses dans l'usine pour plein de raisons. D'abord, l'usine, c'est une idée qui est venue lorsque j'ai commencé à lire. Alors, j'allais pas très bien au début de l'hiver. J'avais des problématiques qu'on pourrait associer à du Covid long ou infection, fatigue post-infectieuse. Et je me suis mis à lire des trucs sur Saint-Nizier, des livres que j'avais achetés qui dataient de 1975-76 et un peu après. Et en les lisant, je me suis dit. Dans l'esprit de Tulia, Tulia était déjà comme site de ressources avec ma banque de liens que j'avais balancée, notamment à l'association Nous Toutes, suite à la première formation qu'on a pu faire sur le travail du sexe. Je me suis dit, allez, au fur et à mesure que tu prends des notes sur les faits, les choses, les événements qui se sont passés, publie-les sur le site dans une chronologie, et donc cette chronologie-là sera accessible, et publie-les sur les réseaux sociaux pour partager cette info. Donc je me suis dit, à partir du moment où ce sera là, il y aura contenu supplémentaire et l'information va pouvoir circuler. Et mon mari pourra en témoigner, je passe ma vie à la librairie Le Moulin à Meaux, à côté de chez moi, la petite librairie de quartier. C'est deux femmes qui la tiennent, et en plus, quand elles avaient fait la pub, j'avais grillé, elles avaient mis les livres à l'envers pour faire leur publicité. Au départ, on voyait que la tranche. Et j'ai reconnu des livres féministes dans la photo, donc je savais de base que c'était un endroit où je passerais pas mal de temps, et j'y suis aussi, au moins quelques heures par semaine. Et donc je leur parle au fur et à mesure des choses que je fais, de Tulia, de mes livres, de cette révolte extraordinaire des prostituées de Saint-Nizier. Et là, je dis, regarde, j'ai fait une chronologie. Et donc Charlotte me dit, mais c'est génial, mais t'as plein d'infos déjà. Parce qu'en plus, dans les livres, au fur et à mesure, des fois, il y avait la lettre qu'ils envoyaient au président. Alors moi, je la recopie. Je me dis, ça nous appartient, c'est notre matrimoine, nos TDS, on a, aux travailleurs et travailleuses du sexe, on a ça qui est notre héritage. Et donc, il faut que les collègues lisent ça. Et je vais apporter même le petit côté qui est peut-être différent de tout ce qu'ont pu écrire de Charles Sociologue par le passé sur cet événement. C'est le regard que nous, on a en étant concernés, en étant TDS, on ne regarde pas les mêmes choses. Et donc, je pense que le TDS gaze, le prostitu gaze, le puto gaze, n'est pas le même regard qui a été porté par des personnes alliées ou historiques, voilà, des personnes non concernées. Donc, je me suis dit, je vais partager au moins ce gaze sur cette page. Et elle me dit, mais c'est génial, cette page. Sauf que là, moi, je vais partir, je m'en vais à Toulouse et j'aimerais bien l'avoir dans le train avec moi pour le lire. Ce serait sympa d'avoir de quoi feuilleter. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire le zine. Et pour le coup, bah, nous, on s'est rencontrés dans ce même genre de contexte. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots.
Oui, du coup, à l'époque, moi, j'ai militant dans une association qui s'appelait Tarlouse 7312. Et du coup, on animait des ateliers sur l'abolition pénale. Et je voulais que cet atelier représente tous les aspects, en tout cas une grande majorité d'aspects que l'abolition pénale représente, et du coup d'avoir une session de travail sur la prostitution, du coup, pendant un concert. J'étais déjà très très sous, en vrai, quand j'ai commencé à te parler.
Je savais pas.
Et du coup, quelqu'un est venu voir en me disant, bah, Cybèle est là ce soir, va l'une, comme ça elle pourra intervenir. Et du coup, Cybèle me raconte ses lectures, le fait qu'elle commence un travail d'archives. Et du coup, je lui ai proposé d'aider et ça m'a hyper motivée. Et, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de me coucher. Et à 3h du matin, en vrai, j'étais sur mon ordi et je commençais à lire des articles. Et du coup...
Je peux même donner la version un peu plus... Parce que moi, je n'étais pas bourrée du tout. La version... Je te vois et tu me dis « Oh, c'est cool ce que tu fais avec les archives !» Et sachant qu'à l'époque, on n'avait pas encore rencontré donc, Sonia ici aux archives, on ne savait pas qu'on allait creuser dans de l'archive encore. Moi, j'étais très intimidée à l'idée d'aller dans un centre d'archives avec des gens importants, des papiers très propres. Voilà. Moi, je lisais des livres. Ça me va. J'ai une putothèque de à peu près 200 ouvrages. J'en ai écrit moi-même. Ça m'intimide beaucoup moins. Mais donc, à cette époque-là, il y a cette chronologie qui est en ligne. Moi, je la partage sur les réseaux sociaux. Et Vlad me dit, c'est génial ce que tu fais. N'hésite pas à me dire si je peux faire quelque chose. Moi, j'ai fait une licence d'histoire. Je connais. Moi, j'ai pas peur des archives, etc. Et donc, moi, je me dis, chaque fois que quelqu'un vient me proposer son aide pour quelque chose, je sais que je vais passer une heure et demie à former cette personne et je la reverrai plus. Donc, je dis, avec cette air de défi, j'aurai le temps de regarder la presse locale. Alors, si tu veux regarder, et là, je me mets à nommer des journaux avec des dates, en disant telle date et telle date, regarde ce que tu peux trouver, et on s'en reparle, et tu me diras. Et effectivement, tu m'as dit, dimanche, j'ai toute ma journée, je vais pouvoir le faire, et j'ai su que tu avais passé la nuit ensuite à creuser, notamment les articles du Monde, en utilisant, je pense, des mots-clés à partir de ce que j'avais un peu fait dans la chronologie, et donc tu as plongé là-dedans, quoi.
C'est ça. Et du coup, j'ai commencé par Le Monde parce que c'est un des seuls journaux qui a mis, depuis 1944, l'intégralité de ses articles en ligne. Donc, normalement payé, mais moi, j'avais un mot de passe enregistré sur mon ordi. Je ne connais pas du tout cette personne, mais merci à elle. Et du coup, j'ai cherché à la base sur les dates que tu m'avais données. Tu m'avais demandé de regarder à partir de juin jusqu'à août. 75, et très vite je me suis dit qu'en fait je ne connais pas du tout le contexte juridique de quelles étaient les lois qui à l'époque encadraient la prostitution, même si je connais celle d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu connaissais sur l'histoire de la révolte de Saint-Dizier avant cette rencontre, avant qu'on commence à chercher?
Je savais du coup que pour moi c'était une cinquantaine de femmes avaient occupé une église à Lyon et que ça avait créé un mouvement un peu important qui avait été suivi à l'international, mais j'en savais pas plus que ça et du coup j'ai découvert assez vite qu'il y avait d'autres églises qui avaient été occupées, ce qui m'a beaucoup surpris.
Et il y avait même plus que ça, je crois, parce que quand tu es rentrée chez toi, tu as découvert des trucs et quand on s'est revus une semaine, je crois, à peu près plus tard, ou même un petit peu plus, tu m'as dit « Non mais attends, il y a un truc, c'est fou ! Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Je pense que parce que du coup, je suis allée chercher plus loin et j'ai commencé mes recherches à partir de 1944. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait eu plein de manifestations avant et d'actions militantes faites par des prostituées, pas à l'échelle nationale, mais du coup, notamment à Paris. Et quand on s'est vu quelques semaines avant, des militantes mexicaines avaient envahi un tribunal de Mexico et ont démoli le tribunal à coups de marteau. Elles sont masquées en talons aiguilles et elles tabassent des bureaux. Et du coup, le monde entier était un peu en mode « Ah là là, les prostituées mexicaines,
effectivement,
c'est les meilleures !» Et en fait, je découvre qu'en 1960, une centaine de prostituées parisiennes ont...
72 ? Non, 75. 74, pardon.
Ah oui, 74.
Il y a eu une autre manif en 1960, on a trouvé des photos sur l'AFP.
Et du coup, donc il y a une vingtaine de femmes qui sont poursuivies pour s'être rebellées pendant une garde à vue, en gros. Et du coup, une centaine de prostituées vont les rejoindre le jour de leur procès et envahir la salle d'audience et du coup empêcher le procès de se tenir. Elles seront quand même condamnées. Mais de savoir qu'une centaine de femmes se sont organisées pour prendre un tribunal, même encore aujourd'hui, le fait de rentrer en tant que militant dans un tribunal, même en tant que militant anarchiste, en France, on ne le fait pas, ou en tout cas difficilement. Du coup, c'était hyper impressionnant de se dire que il y avait tellement de choses et je suis sûre qu'on trouvait encore plein d'autres des actions comme ça un peu partout en France.
Et notamment, moi, tu m'as dit, en fait, il y a une quinzaine de femmes qui, pendant leur garde à vue, ont résisté. Et tu as dit, elles ont saccagé Saint-Lazare. Et pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Lazare, c'était l'hôpital-prison, la clinique-prison, où étaient amenées, bon, en théorie, les personnes syphilitiques, les personnes pour les contrôles hygiénistes à l'époque des maisons closes. Elles y étaient enfermées, c'était un peu un mouroir pour les femmes prostituées. C'était vraiment un lieu horrible de l'histoire de la prostitution. Et lorsque les femmes étaient mises en garde à vue là-bas, officiellement, ce n'était plus une prison. C'était seulement une clinique, mais elles y étaient quand même mises en garde à vue. Et donc cet acte de rébellion à la frontière, surtout quand on a lu quelque part dans un livre très bien d'un très bon sociologue que la première révolte des prostituées s'est passée en 1975, je trouvais ça génial de se dire « Ah ben ça y est, nous on a porté un regard différent et on va continuer à creuser, on va continuer à découvrir de nouvelles choses. » Et donc je me disais... comment est-ce que toi, tu as pu organiser l'information que tu as trouvée ? Comment tu as approfondi ensuite sur les recherches ?
Du coup, j'ai globalement fait un travail chronologique et thématique. Du coup, j'ai essayé en tout cas, de ce que je trouvais dans les articles, d'avoir à la fois une approche locale, donc les villes qui étaient situées, les endroits où des prostituées se sont engagées dans des actions, et de suivre aussi d'un autre côté les avancées juridiques, ce qui était proposé, notamment il y a... Entre la fermeture des maisons closes et 1975, il y a plein de députés de gauche qui vont faire des propositions pour réouvrir les maisons closes, alors que c'est quelque chose contre lequel la plupart des prostituées s'opposent.
C'est une voix unanime, ouais. En 1975, en tout cas.
Il n'y avait pas un collectif
En 1975, c'était unanime, à ce que je sache.
Ouais, mais après, là, du coup, j'étais vraiment sur la période 44-75, ouais. Du coup, il y a eu plein d'autres trucs aussi. Ouais. On va pas tout détailler. Et du coup, là, pour le moment, sur travail avant 75, je me suis un peu arrêtée. Je reprendrai plus tard. Et je me suis surtout concentrée donc, sur les événements de 75 jusqu'à avril 76 pour pouvoir le proposer sous forme de zine et que ce soit le plus complet possible pour la commémoration du cinquantenaire.
Il faut savoir qu'à partir du moment où tu m'as dit « Oui, on fait un zine, c'est une super idée, je suis des terres », la chose la plus difficile qu'on a vécue, ça a été de rester focus sur ce zine pour produire, pour qu'il soit à temps, pour servir notre communauté. Parce qu'avant de vouloir vous le proposer, alors je ne sais pas qui était DS ici, mais je vais supposer qu'à peu près tout le monde l'est, pour faire le contraire d'un coming out, hein, c'est plus simple, je trouve, de mon point de vue. Mais donc, moi, avant tout, lorsque j'ai voulu écrire cette histoire, c'était pour la donner à ma communauté, c'était pour servir autant que possible. Aussi, nous, avec Tulia, ce qu'on se disait, c'est qu'on va fouiller et on va donner les archives, parce que déjà, les personnes de la Fédération Parapluie Rouge, la Fédération des associations TDS, me contactaient en disant « Cybèle, est-ce que tu as des archives sur Saint-Nizier ? Est-ce qu'on a des photos ? Est-ce qu'il y a des fils ?» Donc, allez, on crée une page bibliographie. Voilà, il y avait cette demande de la part de la communauté qui va commémorer les événements. Donc, la communauté actuelle voulait en savoir plus long, voulait avoir aussi des images pour pouvoir faire des tracts, pour pouvoir illustrer, pour mettre sur Instagram, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc d'abord, c'était le service de la communauté. Et ensuite, la création de ce zine. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on découvrait des trucs, on avait vraiment envie de partir dans toutes les directions parce qu'on découvrait des trucs géniaux vraiment à toutes les époques, quoi. Et toi, tu as fait... Donc nous, on ne vit pas à Lyon, on est assez loin, en fait. Et comment tu as fait des voyages à Lyon pour venir approfondir ? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Ouais. Du coup, je suis venue à Lyon 5 fois, je ne sais plus exactement. Du coup, j'ai été donc, aux archives et aussi à la bibliothèque municipale de Lyon qui a une énorme collection de journaux anciens qu'on peut consulter avec on leur donne notre carte de bus en échange et après on consulte ce que c'est assez cool. Et ils sont hyper gentils. Si vous avez envie d'aller lire des vieux journaux et de chercher des anciennes traces de lutte, c'est allez-y, trop bien comme activité. Et du coup, bah, j'y ai passé, j'ai resté quelques jours sur Lyon et je faisais que ça et je revenais du coup après dans ma Savoie natale et du coup on travaillait.
Mais justement, tu as consulté le Fonds Chaumara, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu
Bah du coup, j'ai consulté qu'une boîte du Fonds Chaumara, la boîte sur qui était dédiée du coup aux événements de 75.
Je ne suis pas allée, c'est pour ça que je pose les questions.
Qui est plus, qui est un peu moins complet que le fonds Louis Blanc qu'on a consulté ici, parce que Chaumara est plus un collectionneur, donc c'était plutôt des, il y avait quelques photos d'époque, quelques tracts, mais par rapport au fonds
du Père Louis. C'est ça, tu m'as dit.
Mais le disque n'était pas accessible, mais du coup, une des femmes qui s'est mobilisée en 75 a fait un disque. Je ne me souviens plus le nom du disque, mais j'ai très envie de l'avoir maintenant.
C'était Mais apparemment, je crois qu'il y a des documents, même du fonds Louis Blanc, qui sont en numérisation dans les documents audio, donc c'est possible qu'on puisse y avoir accès plus tard. Histoire à suivre. je voulais te demander comment tu penses que ces recherches-là elles peuvent s'inscrire en cohérence avec ton parcours militant. Donc, on ne vient pas du tout du même milieu militant, on se croise ici. Et je pense à la question carcérale.
Du coup, moi, je disais tout à l'heure que j'étais militant contre la répression. Je n'ai jamais été, en tant que TDS, militante sur ces questions-là. Et du coup, je trouve important déjà de raconter l'histoire des luttes parce que c'est quelque chose qui est oublié. Assez fortement, on ne se rappelle pas de ce que les anciens ont fait pour nous, de ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des droits, de continuer la lutte. Et je trouve ça important de ne pas reprendre les luttes à zéro à chaque fois et de s'inscrire dans une action au long terme qui a en fait été commencée il y a parfois plusieurs siècles. Et je pense que les prostituées se sont rebellées dans plein d'autres endroits du monde, à plein d'époques différentes quand elles étaient maltraitées. Et sur les questions de prison, quand on lit le tract que je vous ai lu au début et d'autres textes, quand elle parle de prison, moi, c'est quelque chose contre lequel je lutte profondément, que ce soit l'enfermement carcéral judiciaire ou psychiatrique. Moi, je ne fais pas trop de distinction entre l'hôpital psychiatrique et la prison civile. Et du coup, je trouve ça assez fou de voir que ça concerne absolument tout le monde. Et je pense qu'en plus, ce travail sur la lutte des travailleurs du sexe ne concerne pas que les travailleurs du sexe, parce que, et c'est ce qu'elles disent, ça concerne en fait leur famille, leurs proches, toute la société. La prison, c'est pas juste les personnes enfermées, c'est aussi tout le monde, enfin, même nous, en fait, je considère que le fait que d'autres individus de la société soient enfermés fait qu'on est aussi d'une certaine manière enfermés, et nous ne sommes pas libres tant que les autres ne le sont pas au même titre que nous.
Merci beaucoup. Pour la prochaine petite partie de cette soirée, moi, ce que je vous propose, j'aimerais inviter Emma, qui est une adhérente de Tulia, à venir m'interroger sur une partie spécifique de Tulia.
Merci. Bonsoir à toutes et tous. Oui, il y a une partie intéressante dans Tulia qui donne envie de poser la question. Tu as parlé de la culture libre tout à l'heure. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce qu'est la culture libre ?
Tout à fait, notamment parce que j'ai écrit en parenthèse « ne trouver une définition un peu plus formelle ».
S'il te plaît.
Et ce que je n'ai pas fait. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le dire déjà, de le formuler. Parce qu'effectivement, quand j'ai cherché culture libre, on trouve un article Wikipédia. Alors déjà, un article sur Wikipédia, c'est déjà de la culture libre de base. Alors... mais je n'ai pas pris cette note parce que j'étais très stressée de venir ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture libre ? C'est quand on prend l'exemple de Wikipédia, c'est le fait d'avoir des informations de la culture. Ça peut être de la musique, ça peut être de l'image, ça peut être de la donnée, ça peut être de la donnée géographique. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais qui sont librement accessibles et librement partageables, donc mis en accès pour les gens. Est-ce que, en anglais, je trouve ça assez bien parce qu'on a le mot commons. En français, on pourrait dire les communs. Et les communs, je pourrais interroger l'historienne que j'ai à côté de moi, mais voilà, c'est quelque chose qui date d'assez longtemps dans nos modes d'organisation et qui dit, si on a un champ champ qu'on met en commun pour le village, qui va nourrir ce village. Tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut s'en nourrir. Et je pense qu'au niveau de la connaissance, cette allégorie-là, elle est assez pertinente parce qu'on fait cette mise en commun et que tout le monde peut ensuite s'en nourrir. Et tout le monde peut mettre aussi la main à la pâte plus facilement.
Tout le monde est satisfait de cette réponse. Parfait, merci. alors, je te connais depuis quelques temps et tu te définis souvent comme libriste, effectivement. Du coup, comment ça se manifeste, toi, dans ce que t'es, ta manière de travailler, ton parcours ? Voilà, c'est quoi une libriste dans la vie ?
Alors, moi, déjà, je suis une libriste extrêmement opportuniste, c'est-à-dire que mon ordinateur roule sous Windows, hein, déjà. Donc, je vais être libre, surtout dans la façon dont moi, je produis et partage des connaissances. Mais effectivement, si la marche est élevée pour moi en termes de technologie, je ne vais pas nécessairement évacuer tout ce qui fonctionne sous copyright, des logiciels, etc. Je ne vais pas forcément non plus demander aux gens qui m'entourent d'utiliser des moyens de communication libre à tout prix. Donc je suis plutôt celle qui a installé à peu près 6 types de messagerie sur son téléphone pour s'assurer que tout le monde puisse contribuer au projet que je pilote. Donc c'est moi qui mette à tout le monde. Donc voilà. Mais je vais au-delà quand même de simplement utiliser LibreOffice ou Mozilla Firefly pour les logiciels un peu libres. C'est-à-dire que moi j'ai été sans domicile fixe joyeuse pendant une douzaine d'années. Et pendant cette douzaine d'années, j'étais particulièrement autostoppeuse. Et autostoppeuse et couchsurfeuse, hein, c'était le site web Couchsurfing, mais un peu l'ancêtre gratuit d'Airbnb. Je faisais donc du stop et de la récupération de nourriture. Et ça a beaucoup d'importance pour tout ce que je vais te dire ici, parce que j'ai contribué et j'ai utilisé des wikis. Les wikis, ça ne se limite pas à Wikipédia. Ce sont une structure de type de site web sur lequel les gens peuvent venir contribuer librement sur des sujets qui les intéressent. Wikipédia est la version encyclopédique et a popularisé ce type de site, mais on peut en avoir pour toutes les choses. D'ailleurs, mon mari et moi avons Wiki, hein, sur un site privé, mais sur lequel il y a l'inventaire des fusibles d'appartement, les informations importantes pour les chats si on les fait garder, la date d'achat du four et sa facture. Voilà, il y a un certain nombre de choses, ainsi que, je crois, une révision des bières qu'on a brassées à une certaine époque. Voilà. Donc, avec le but de partager des connaissances, de les noter, de construire sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a appris, et de prendre des décisions aussi parfois plus efficaces. Là, pour acheter un cadeau, ça peut être particulièrement pratique d'avoir la liste des choses qu'on aimerait bien s'acheter chacun de notre côté. Et voilà, ça donne des idées. Mais j'ai contribué à un wiki qui s'appelle Nomad Wiki, à un autre qui s'appelle Trash Wiki, dans lequel on parlait des poubelles avec les meilleures dégustations, ou encore le Couch Wiki, le wiki de Couchsurfing. Donc voilà, j'ai participé aussi à Itch Wiki pour l'autostop, et il y avait même une carte basée sur OpenStreetMap, donc la version les cartes plus libres, et on pouvait marquer les meilleurs points d'autostop pour quitter Lyon. Donc c'était plutôt vers Gerland, vers la Confluence, pardon, pour repartir de Lyon. Donc j'ai voyagé en Europe à travers l'Europe avec ça. Donc c'est comme ça que je me suis définie libriste et que j'ai rencontré mon mari libriste. Donc on fait un couple un peu libre. Notre premier rencard était dans un événement lié à Wikimedia, justement avec la cabale de Grenoble, pour ceux qui connaissent, la cabale à la noix.
Merci. Mais alors du coup, qu'est-ce que cette culture-là et la manière dont tu l'investis, comment ça peut nourrir le mouvement TDS, le mouvement pour nos droits, et pourquoi c'est important pour toi que Tullia soit dans ce mouvement libriste?
Moi, je n'ai pas fait ce choix a priori, c'est-à-dire que c'est mes expériences dans le milieu militant TDS qui m'ont guidée vers ça. Je me suis rendu compte que quand je travaillais dans une asso, il se passait énormément d'essoufflements. Vu les violences auxquelles on est exposé, et je ne parle pas de violences strictement de clients, de parties tierces, je parle vraiment des violences institutionnelles. Les gens ont des santé mentales qui peuvent aussi être assez fragiles. Les gens qui s'investissent, il y a vraiment une pression sur le mouvement militant. J'ai vu beaucoup de soldats tomber au combat, bon, voilà pour une allégorie militaire, désolée. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens qui avaient beaucoup de bonne volonté, qui voulaient réaliser des choses, qui se mettaient à se lancer dans un projet en disant « voilà, je vais faire ça », et qui après étaient épuisés et n'arrivaient pas à l'amener jusqu'au bout. Et donc, moi, je me disais, si on publiait les choses au fur et à mesure, si on documentait correctement tout ce qu'on produisait, déjà, on n'aurait pas à réinventer la roue. Quelqu'un pourrait reprendre ce qu'a fait une personne pour ensuite l'améliorer. Ensuite, j'ai vu un déficit en documentation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de faux chiffres. Et voilà, les gens qui me connaissent depuis un certain temps savent que c'est un petit peu un de mes sujets, de mes violents dingres, les faux chiffres, comme voilà, on commence tout à entre 13 et 15 ans, on meurt autour de 34 à 41 ans. Il y a une vidéo sur YouTube où on parle de ça. Il y a aussi un chapitre dans le livre DS, témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe, où on a remonté trois chiffres. On s'est retrouvé en Californie du Sud en 1927 pour le taux de suicide chez les escort girls en France. Donc, je voyais qu'il y avait une guerre de l'information, des arguments. Pour la défense des droits des travailleurs du sexe. Il y avait des conséquences très concrètes sur les lois, sur les politiques qui étaient appliquées ensuite sur nous. Et je me suis dit, si au moins ces outils pouvaient être créés, ne pas être abandonnés en chemin, ne pas être perdus, que le travail des militants puisse être valorisé au maximum, de mettre cette information la plus libre possible et la plus facile à améliorer possible, ça me semblait une évidence. Et je n'aurais pas voulu que, parce que je quitte une association, et c'est ce qui s'est passé aussi dans mon parcours militant, que je quitte cette association, que le travail que j'ai fait ne puisse plus être valorisé, ou parce que les gens oublient que ça a été créé et ne l'utilisent plus, on va inventer la roue tout le temps, quoi.
Et de fait, comment toi tu vas, comment l'association Tulia va contourner cet écueil, et comment la libriste, elle va vraiment être intégrée dans les activités, dans tout ce que va mener Tulia?
Ouais, je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est déjà de parler de culture libriste, parce que la plupart des TDS autour de moi ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui le savent parce qu'ils ont évolué dans des milieux justement un peu plus anarchistes, où c'est un petit peu plus connu. Que lors des putains de rencontres qui ont eu lieu à Nantes, donc ce sont des rencontres annuelles des travailleurs et travailleuses du sexe, comme à Nantes, il y avait des gens qui étaient dans un squat où il y avait des personnes qui étaient déjà assez versées en culture libre. Du coup, les gens connaissaient un petit peu plus. Mais moi, souvent, c'était un tel inconnu que quand j'ai quitté mon autre association, j'ai dit je pars avec ce que j'ai créé. De toute façon, je l'ai créé en Creative Commons, et les gens me disaient mais elle est en train de voler le matériel qu'elle a créé. Donc voilà, il y a tout un travail déjà de vulgarisation et de questionner qu'est-ce qu'on peut nous libérer à chaque étape. Est-ce que ça, c'est une info qu'on peut libérer? Par exemple, l'audio de cette soirée, pour moi, s'il n'y a pas de raison de ne pas le libérer, on peut le libérer. Ça me semble vraiment une évidence. Et donc, de questionner à chaque fois avec les personnes avec qui je travaille, est-ce qu'il y a moyen que ce travail-là, on le publie maintenant, même s'il n'est pas terminé? Est-ce qu'il y a moyen, aussi, on va parler des outils libres, forcément, le sujet va venir. Au fur et à mesure que les gens sont un peu plus familiers, on peut se poser la question, on a peut-être un peu peur, et ça, c'est une peur complètement entendable, mais de mettre nos dossiers, nos documents à la merci de Google, à la merci de Microsoft, à la merci des GAFAM, parce que on sait, et moi je le sais tout particulièrement en étant canadienne, j'ai vu les lois américaines arriver, CESTA, FOSTA, des lois qui avaient pour but de lutter contre le trafic, mais qui luttaient réellement plutôt contre les prostituées, la prostitution, les travailleurs et travailleuses du sexe, et qui ont fait perdre des comptes de réseaux sociaux ou des comptes en ligne importants, et donc des données qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Je vois bien la répression qu'on subit sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes numériques, et donc c'est une question, je pense, cruciale et de survie pour les travailleurs et travailleuses du sexe qui s'organisent, que d'avoir des portes de sortie en dehors de ces plateformes-là, qui du jour au lendemain peuvent nous forcer à cesser d'exister. Donc pour notre résilience, il va falloir qu'effectivement on puisse développer cette utilisation des outils libres également, et des outils de communication libres aussi, parce qu'il y a des enjeux de surveillance également.
Merci pour tout ça. Je ne sais pas si Vlad veut ajouter quelque chose à tout ça, mais...
Je trouve important à dire sur Tulia et l'aspect libriste. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je voulais insister dessus, le fait que tu aies plein d'outils différents pour accueillir les gens et s'adapter à eux, c'est hyper important. Enfin, travailler avec toi, c'est hyper gratifiant. Et je trouve que c'est une association qui permet vraiment de prendre aussi confiance en soi, aussi que c'est des formes que ce soit le travail d'archives, le travail juridique aussi, de partage de connaissances, c'est accessible. Et aussi de créer des espaces où on n'a pas l'impression qu'il faille maîtriser Linux ou Tor. Moi, je ne sais pas faire et je suis sur Google aussi. Et enfin voilà, c'est, je pense, hyper important d'avoir réussi à créer un espace qui donne du pouvoir aussi à des personnes qui peuvent être isolées socialement. Voilà, du coup, merci à toi en vrai.
J'en profite du coup, j'ai envie de quand même remercier pour le travail que vous êtes en train de mener et pour le travail que vous allez mener, sans mettre la pression aucune, évidemment.
Ok. Je vais inviter maintenant Raph, qui est un autre de nos primo adhérents à Tulia, à venir nous poser d'autres questions.
Merci, bonjour. Ok, je voulais revenir un petit peu du coup sur 1975, sur Lyon. Sur Lyon, j'ai eu l'occasion d'étudier un peu ça, mais je ne me suis jamais posé la question bêtement dans mes études plutôt juridiques. Pourquoi ça a démarré à Lyon en fait ? Parce que tout à l'heure, quand on a eu la lecture de la première lettre à la population, on a bien compris qu'il y avait un fond de répression policière, mais bêtement, je me dis ça doit être la même chose dans toutes les grandes villes de France à ce moment-là, peut-être. Pourquoi spécifiquement à Lyon cette étincelle, même si ce n'était pas la première, on a bien compris. Pourquoi à Lyon à ce moment-là ?
Alors, du coup, elles en parlent un petit peu dans la première lettre qu'elles vont écrire à la population. En 1972, il y a une affaire qui éclate, appelle l'affaire de Lyon, où une dizaine de policiers, dont des commissaires, sont mis à pied pour proxénétisme et pour avoir accepté des pots de vin d'hôteliers. Et en fait, la France entière se rend compte que la police lyonnaise a un réseau de prostitution qui s'étend jusqu'à Lille, jusqu'à Clermont-Ferrand. Et il y a beaucoup de têtes qui vont tomber, notamment le commissaire Touneau, à ce moment-là, qui va être incarcéré. Et ça va faire la une des journaux nationaux pendant des mois. C'est une affaire qui va être suivie pendant plusieurs années par la presse. Et déjà, depuis quelques années, la répression, enfin depuis la fermeture des maisons closes, la répression contre les personnes prostituées augmente d'année en année, c'est de pire en pire. Et là, il y a un tournant majeur. La police lyonnaise doit redorer son blason, doit montrer que maintenant, c'est une police clean et montrer patte blanche. Et donc, ils vont augmenter les contrôles, les PV. Et donc, elles arrivent à une situation où 4 PV par jour, c'est intenable. Et on va ressortir une loi sur la récidive qui n'avait jamais été spécialement appliquée. Ou si on prend, je crois que c'était 3 PV pour la même raison.
Normalement 2 même.
2 ouais. 2 PV pour la même raison. On peut faire à partir de 3 jours de prison.
La même année.
Ouais.
Ouais, 2 PV dans la même ville, la même année, pour la même infraction, peut avoir 3 jours de prison. Et la prison, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes une femme incarcérée qui est une mère monoparentale, ce qui est la situation principale des femmes prostituées de 75, c'est le spectre de perdre la garde de vos enfants. Et ça, c'est un déclencheur, ça met le feu aux poudres.
Et du coup, il y a plusieurs femmes qui vont se cacher, qui vont fuir la police et qui vont rentrer dans la clandestinité à ce moment-là. Et en même temps, bon, c'est pas que à Lyon, mais du coup, elle, ça va être un peu trop pour elle. En même temps, le fisc arrive dans la partie. Ils n'avaient jamais fait ça avant. Et là, on se dit, on va demander des impôts aux prostituées, des arriérés sur 4 ans. Donc, on leur demande une somme absolument astronomique sur le travail qu'elles font. Donc, travail qui n'est pas reconnu par l'État. Elles n'ont pas de sécurité sociale, elles n'ont pas de chômage. Mais là, maintenant, elles doivent payer des impôts. Tu avais calculé, je crois, la
entre
somme.
25 000 et 65 000 qui leur est réclamé. En arriéré d'impôts, alors qu'avant, tout simplement, ce n'est pas un travail. Donc, de toute façon, il n'y avait pas d'endroit spécifique pour le déclarer. Quoi.
Et dernier élément du contexte à Lyon spécifiquement, qui va faire que les femmes vont s'organiser et s'engager dans la lutte, il y a des meurtres de prostituées assez violents qui ont lieu au début de l'année 75. Et ça va scandaliser du coup les femmes qui travaillent, mais ça va absolument pas inquiéter ni l'opinion publique ni la police, qui du coup est plus inquiète de mettre des PV à des femmes parce qu'elles ont souri dans la rue que de rechercher des gens qui éventrent des femmes
en pleine rue. Et je tiens quand même à préciser qu'encore aujourd'hui, quand une femme prostituée est assassinée, la police globalement s'en fiche. Et on est toujours victime des mêmes choses qu'en 1975, ça n'a pas changé.
Et peut-être une petite note, parce qu'on va parler un petit peu plus du mouvement en large, mais on a découvert quelque chose. Alors, j'ai eu la joie de discuter avec Anne Buffet, qui a travaillé sur la pièce de théâtre Loveless, que peut-être certains parmi vous ici ont pu voir, qui était une mise en pièce de théâtre il y a quelques années du livre de témoignage de Claude Jaget, qui est un des premiers livres qui est sorti dans la foulée des événements en 1975. Et elle m'a parlé d'une femme qui avait tenté d'occuper l'église à Montpellier. Donc j'ai découvert le livre de Chantal et Jean Bernard, Nous ne sommes pas nés prostituées, dans lequel j'ai découvert une lettre qu'avaient écrite les femmes prostituées de Montpellier, qui se rassemblaient juste entre elles, en disant Simone Veil, parce qu'ils voulaient écrire au président, mais ils se sont dit jamais il va lire. Et comme ils avaient entendu parler de Simone Veil, hein, il y a la dépénalisation de l'IVG qui vient seulement d'arriver, elles se disent bah, voilà, elle est sensible aux choses, on va lui écrire. Et en fait, elles lui ont écrit quelques jours avant le début de l'occupation à Lyon. Donc il y avait un effet de cocotte minute un petit peu partout en France à ce moment-là, quoi. Déjà, donc que ça soit passé à Lyon, limite, c'est presque
un hasard.
Un hasard, ouais. Il y a le fait qu'il y avait aussi des alliances. On va voir un petit peu. Dans le zine, on a une page sur les alliés à Lyon qui ont quand même joué un rôle, qui ont permis à permettre l'empouvoirment, de faire une connaissance un peu de la façon dont on peut lutter plus efficacement dans les luttes sociales. Mais il y avait quand même une espèce d'air du temps à ce moment-là.
D'accord. Alors du coup, l'air du temps, ça ne fait pas tout. Il faut pouvoir communiquer rapidement, efficacement peut-être. Comment ça s'est répandu, en fait, cette mobilisation? S'il y avait déjà les conditions pour que ça arrive, il a bien fallu que l'information, qui n'allait pas à la même vitesse à l'époque qu'aujourd'hui, parvienne dans les autres villes, que ça donne des envies, des idées, un signal de départ. Comment ça s'est fait un petit peu, ça, à l'époque?
Il y a deux ce qui se sont passés. Il y a une communication énorme. Alors, l'avantage d'occuper une église, hein, on me l'a demandé encore ce matin à Radio France, on m'a demandé pourquoi occuper une église? Bah, vous êtes expulsé déjà beaucoup moins vite que si vous occupez la mairie ou le palais de justice. Donc, ils avaient le temps, ils avaient un momentum qui leur permettait de faire une communication efficace. Et ils avaient aussi, bah, parmi des alliés, certains journalistes lyonnais qui étaient déjà intéressés sur la cause. Alors, Claude Jaget, qui travaillait pour Libération, était à la fois journaliste et un petit peu militant dans l'histoire, quand même. Et il y avait aussi des journalistes radio, des personnalités qui étaient un peu complices de cette occupation, qui ont permis de diffuser rapidement par la radio l'action. Et les clients sont aussi un mode de transmission, pas seulement des IST, mais aussi de l'information. Donc c'est arrivé qu'à certains endroits, ils passent, mais vous avez entendu, vous avez des collègues là qui ont occupé à Lyon. Donc, dans le récit que j'ai découvert de Chantal, ils disent que c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme il n'y en avait aucune qui connaissait un curé dans l'histoire, parce qu'elles n'allaient pas à l'église, au plat précisément, ils sont entrés dans la cathédrale à Montpellier et ils ont demandé le numéro de téléphone d'une église à Lyon qui serait Saint-Nizier. Et comme ça, quelques heures plus tard, ils ont réussi à avoir la ligne et à parler directement aux personnes. Donc à Lyon, à Saint-Nizier, il y avait quelqu'un au téléphone qui prenait tous les appels et qui répondait, parce que de partout en France, des femmes prostituées se regroupaient et essayaient de voir ce qui se passait et se sont ensuite déplacées. Mais il y a aussi un autre événement dont on parle un petit peu moins maintenant, mais il y a un mois avant l'occupation, il y a eu une émission de télé qui s'appelle Les dossiers de l'écran, dans lequel il y a eu d'abord un film de fiction et ensuite un débat. Et pour la première fois, il y avait une femme en activité, qu'on connaîtra ensuite sous le nom de Hula, qui est devenue un peu le symbole de la révolte, parce qu'elle a fait beaucoup d'interventions ensuite dans les médias, parce que les journalistes aussi l'interrogeaient beaucoup. Et donc Hula disait non pas « je suis repentie, j'ai cessé ou je veux cesser la prostitution », elle disait « non, nous c'est notre travail et on ne peut pas l'exercer, on nous harcèle, on nous discrimine, c'est intolérable et je n'ai pas l'intention de m'arrêter, je veux le faire dans de bonnes conditions ». Et ça, elle avait été vue par les femmes prostituées partout en France. Donc le nom Hula était déjà sur les lèvres. Ensuite, les femmes ont appris qu'il y avait eu cette révolte, cette occupation dans l'église à Lyon. Et peut-être tu veux continuer.
Ouais, faut savoir que du coup, Oula, à ce moment-là de passage télé, elle est déjà engagée dans la lutte et elles font déjà des réunions à Lyon et elle va à cette émission dans une optique militante. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle y allait aussi.
Elle s'est fait inviter.
Ouais, elle a fait du forcing, je crois, pour y aller. Enfin, quelle queen, en vrai, elle a géré là-dessus. Et ouais, je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter sur...
Bah du coup, la plupart, y a des groupes qui sont venus jusqu'à Lyon. Et quand on dit, voilà, il y a une centaine ou 150 femmes lyonnaises qui étaient dans l'église, après, on pense qu'il y a eu peut-être jusqu'à 205, 210 femmes en même temps dans l'église, et potentiellement deux hommes aussi, ou deux personnes trans, ou en tout cas travesties. Et donc, il y a eu une bonne 200 en un seul moment, et il y a eu sans doute... plus de 400 personnes qui y sont passées, parce que ce qu'on voit dans ici, c'est « Ah, les Grenobloises viennent d'arriver, et puis il y a les meufs de Saint-Étienne qui débarquent, et puis il y a un convoi d'une cinquantaine de Parisiennes, et ensuite il y a les Marseillaises qui débarquent aussi, ils amènent des cigarettes, ils amènent de la bouffe, elles ont amené des postes télé. » Donc comme il y a eu tout ce passage déjà, elles ont convergé jusqu'à Lyon, et ensuite, elles sont reparties. C'est pour ça que les occupations des autres églises ont commencé à partir du 6 juin, donc 4 jours plus tard.
D'accord. Donc, il y a quand même un rôle important des médias de masse dans la nationalisation du mouvement, en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné dans les autres villes? On vient d'entendre l'exemple de Montpellier, de ce qu'elle voulait faire à Montpellier. J'imagine bien qu'à Paris, à Bordeaux, dans d'autres villes, il s'est passé beaucoup d'autres choses.
Il s'est passé ouais, pas mal de choses et je ne sais pas encore tout. Il y aura, je pense, des nouvelles histoires à venir. Moi, du coup, j'ai surtout travaillé là sur Grenoble parce que c'est l'église la plus proche de chez moi. Et j'ai été TDS à Grenoble et je ne savais pas du tout qu'il y avait eu ce type d'action. À Grenoble, elles vont occuper une basilique. Et pour le coup, c'est assez chouette parce qu'elles vont... Du coup, toutes les églises vont se faire expulser en même temps, sous ordre du ministère de l'Intérieur. Et à Grenoble, ils vont avoir un peu plus de mal à les expulser parce que les abbés et le curé de la basilique vont protéger les prostituées. Et la presse raconte qu'ils font front dehors en invoquant la loi de 1905 qu'on invoque tout le temps en ce moment. Mais qui ne consiste qu'à séparer l'Église et l'État. Et du coup, ils expliquent que vous avez voulu nous séparer. L'État n'a rien à faire au sein de nos institutions. Si les prostituées nous dérangent, on s'occupera de nous de les faire partir. Et au nom de la laïcité, laissez-nous tranquilles. Et bon, ils chargeront quand même l'Église. Mais ils mettront plusieurs heures avant de réussir à les expulser. Et c'est donc l'Église qui aura le plus résisté contre la police. Mais... les dispositifs policiers à l'époque étaient assez impressionnants pour, comme maintenant en fait, quand on voit qu'il y a plus de policiers que de manifestants dans certains rassemblements, ben là c'était un peu pareil. Et par exemple, Dijon et Strasbourg, c'est deux villes qu'on a découvertes très récemment avec Cybèle, donc on n'a même pas déterminé encore quelle église était occupée, mais a priori, on a des mentions des expulsions de Dijon et Strasbourg, donc on ne sait pas encore.
Il faut savoir que la presse nationale est très mobilisée autour de Lyon. Et ensuite, les grands quotidiens nationaux ont un peu plus accès aussi à Paris et à Marseille. Ils passent des correspondants sur place. Mais les autres villes, c'est beaucoup plus lent. Ils sont souvent que mentionnés. On va mentionner, après Saint-Étienne. Et des fois, on ne sait pas si effectivement c'est une occupation, s'il y a eu une grève solidaire. Par exemple, on a découvert qu'à Toulon, ils avaient rencontré le maire. Est-ce qu'ils sont dans une église? Oui, a priori, mais ça, on l'a découvert. Et la joie des archives, c'est que bien souvent, il faut se rendre sur place. Il faut trouver au moins, pour ce qui est de la presse locale et régionale, dans les bibliothèques ou dans les archives municipales locales ou départementales. Mais c'est compliqué si on choisit de ne pas faire le tour de France en même temps. Et on s'attend à trouver d'autres choses. On sait aussi qu'il y a certains endroits où ils ont fait des grèves de 24, de 72 heures. Notamment à Nice, ils ont décrété une grève comme ça, à Saint-Étienne. Et on a retrouvé ensuite, à partir du moment où on le sait, on peut retrouver plus de choses. Donc en fouillant sur les banques d'images de l'AFP, on a retrouvé aussi une image de cette manif, de cette grève, où on voit un mannequin qui dit « Tu viens chérie, moi je prends moins cher ». Comme ça. Et moi, je ne suis pas en grève, pardon. Et Toulouse, Saint-Cernin, la basilique quand même, bah, on n'a quasiment aucune information, mais on sait qu'elles ont enserré le 9, comme à Avignon, et qu'elles ont été expulsées le lendemain. Et donc il y a des endroits où les expulsions ont été très violentes, notamment à Lyon, à Marseille et à Paris, et bon, à Grenoble où il y a eu pas mal de résistance. Il y a d'autres endroits où elles venaient juste de rentrer dans les églises, et donc elles sont sorties bah, après une demi-heure de parler. Je sais que Montpellier, ça s'est un petit peu passé comme ça, parce qu'elles n'étaient pas beaucoup de toute façon, parce qu'il n'y avait pas de soutien de la population et des syndicats et des groupes religieux dans les alentours, quoi. Donc ça a été très variable. Alors moi, je pense, après avoir lu tout ce que j'ai lu, qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes en tout qui ont été mobilisées, de personnes de prostituées, quand on compte absolument toutes celles qui étaient là. Griselda Diréal parle de plusieurs centaines à Paris, Montparnasse, seulement, parce qu'il y a des gens qui arrivaient, des gens qui repartaient. Et on sait qu'à Lyon, c'était au moins 150.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser avec le récit de l'action, peut-être pas l'action la plus connue, mais celle que je trouve la plus belle maintenant. J'ai été spoilé, hein, désolé. Mais elle est passée en première dans mon top 10 d'action autour de cet événement. Merci.
Ah, bah, si tu veux. Ouais, bah, non, vas-y, je t'en prie.
Et du coup, donc là, on a beaucoup parlé des occupations. Donc, elles sont expulsées partout en France le 10 juin, mais la mobilisation ne va pas du tout s'arrêter là. Et elles vont organiser des généraux de la prostitution en juillet à Lyon. Donc, ça aura lieu à la Bourse du Travail. Et donc, c'est un événement dont on a très peu d'images parce qu'elles ne voulaient pas être filmées ou photographiées à ce moment-là. Donc, on a retrouvé deux affiches de l'époque aux archives. Et donc, ça va retenir les prostituées de toute la France. Et en repartant, elles sont un peu frustrées quand même de comment ça s'est passé. Et donc, le lendemain, avec le quart des Parisiennes et toute une horde de voitures, elles vont partir en Auvergne, voir Giscard d'Estaing. Et du coup, c'est ce que Belle va vous raconter à travers les mots de Sonia, qui est... La déléguée à l'époque des prostituées parisiennes.
Alors c'est issu de son livre et on n'avait pas la place pour le mettre dedans, mais c'est effectivement Raph qui m'a convaincue. Il m'a dit, il faut que tu le lises à Dom, et Dom est dans cette pièce, donc en profiter, merci Dom. Nous avions affrété un car depuis Paris et nous étions arrivés en cohorte, suivis par une cinquantaine de voitures particulières. Pourquoi ne pas aller voir Giscard ? Demanda tout à coup quelqu'un. Aussitôt, nous nous entassâmes dans le car et prîmes la direction de Chanona, où le président de la République possède le château de Varvas. Delphine Sérig, qui était venue en renfort, était parmi les pétroleuses les plus pétulantes. Imaginez une campagne vallonnée sous le soleil d'été. C'est le matin, l'air est léger, avec cette saveur à la fois parfumée et digne que possède seul le vent de la montagne. À l'entrée du village, la route serpente entre les murs de pierre. C'est la France de toujours, avec ses dimensions humaines, sa beauté du juste milieu. Rien d'étonnant à ce que ce paysage tranquille ait façonné l'homme qui souhaite gouverner au centre. Le car s'arrête devant un paysan rougeau qui, la fourche à l'épaule, entasse sur des meules des brassées de foin blond. Où est le château de Varvas ? Nous sommes des touristes. Longuement, le brave homme explique l'itinéraire. Il faut tourner à droite, puis à gauche, et là où ce sont les gendarmes, c'est le château du président. Au-delà des murs se dresse une demeure de pierre blanche, gracieuse, aristocratique. Varvas, c'est la douceur de la Renaissance, le sourire de la France éternelle, l'ardoise fine, le petit liré, le séjour des aïeux. Une poterne sculptée, gardée par deux pandores débonnaires, en défend l'entrée. Aussitôt, nous mettons pieds à terre, devant des gendarmes sidérés par un tel voiement. Les banderoles se déplient, la marée humaine se hérisse de pancartes. Il y a un instant d'affolement durant lequel Corinne, qu'une journaliste a prise à bord de sa voiture, en profite pour s'infiltrer dans le parc. Croyant avoir fait une prise, les gendarmes referment précipitamment le portail. Les cris fusent chez les assaillants. « Rendez-la-nous ! Rendez-la-nous ! » Attirant la réponse rageuse et catégorique « Jamais !» Alors, au cri de « À poil les flics !» Le portail est enfoncé en moins d'une minute. On écrase la piétaille, l'aile gauche se replie, l'aile droite fait une percée. Un quarteron de fantassins se jette à l'assaut des alliés, protégés par le tir compact de l'artillerie qui fait feu de tout bois. et en particulier ceux des Manchegardes. L'armée ennemie, terrifiée par de tels visages et de si prompts renforts, est poursuivie jusque sur les plates-bandes. Effarée, éperdue, ayant abandonné le drapeau du régiment, entendez le kipi des gendarmes, elle erre assoiffée tout au long des pelouses. Nous dénombrons nos pertes, ongles cassés, cheveux arrachés, bas filés et pieds écrasés. Elles sont minces et sans rapport avec l'issue glorieuse du combat. Le général Hulla peut dire « Soldat, je suis content de vous ». La déroute de l'ennemi a gagné sa cavalerie. Les chevaux des Giscard d'Estaing en profitent pour quitter leur paddock, bientôt rattrapés au lasso par des minces pertes et promptes. Un prisonnier nous est amené. Il s'agit du jardinier qui supplie d'avoir la vie sauve. Devant le haut commandement, l'homme a le front de faire face. « Fichez le camp, dit-il, vous n'êtes pas chez vous !» Alors le colonel Sérig, d'un mot demeuré historique, va remettre les choses à leur place. La propriété, c'est du vol. Les troupes d'occupation pendant ce temps s'organisent. L'effroi aura été tel chez l'ennemi qu'une parente du président de la République aura même été se cacher au fond du donjon. On s'assoit sur les pelouses, on flâne, on devise. C'est la guerre en dentelle, le repos des guerrières, les délices de Varvas. Notre action psychologique affecte de convaincre les populations indigènes en distribuant nos prospectus. Non, aux maisons closes ! Oui, à Simoneville ! L'effet est saisissant. C'est alors que nous apprenons que l'adversaire va recevoir des renforts de la gendarmerie. Aussitôt alertés, nos troupes sont sur le qui-vive. 5 Pandores arrivent, plus étonnés que belliqueux. Ah, c'est que vous ! On craignait les agriculteurs. Un émissaire dépêché au monarque ennemi reçoit cette réponse ferme. Laissez ces dames évoluer en paix dans la mesure où elles ne cassent rien. Elles partiront bien toutes seules quand elles en auront assez. Eh bien, il y a du Louis XVI, non, et non du Louis XV, c'est l'évidence même chez ce président-là. En fait, nous serons bien chassés par la force baïonnette. Repliés en bon ordre sur des positions stratégiques, soigneusement préparées à l'avance, nous regagnerons notre quart au terme d'une campagne éclair qui fut surtout une partie de campagne. En rentrant à Lyon, nous nous arrêtâmes à Chamalières, autre fief ennemi où d'importantes troupes, 500 policiers environ, avaient été massées devant la mairie. Tout Chamalières était à ses fenêtres pour nous voir distribuer généreusement des quantités de cacahuètes à ses échappés du zoo. Après un déjeuner sur l'herbe, nous rentrâmes à Lyon, épuisés mais ravis.
Maintenant, je te laisse présenter les revendications, le début.
Oui. Du coup, maintenant, on va vous parler des revendications politiques qu'elles ont portées en 1975. Du coup, pour ça, elles ont édité un livret qui s'appelle Liberté, Égalité et Fraternité pour toutes les Françaises, qui paraîtra le 30 septembre 1975 et qui se base sur... La documentation qu'elles ont préparée pour Monsieur Prostitution, qui est donc un haut fonctionnaire que Giscard va nommer sur ce dossier suite aux mobilisations. Et donc Monsieur Prostitution va recevoir plusieurs fois des délégations de prostituées et donc elles vont publier le rapport qu'elles vont lui remettre avec leurs demandes. Et donc Cybèle va présenter les principales revendications, ce qui a évolué par rapport à aujourd'hui. Et ce qui est différent aussi, puisque aujourd'hui on a des nouvelles revendications et certaines revendications qui ont aussi complètement disparu. Voilà.
Bah, ce que je te propose, c'est qu'on lise tout de suite nos articles qu'on a un peu choisis. On voulait pas... Il y a 30 articles dans le projet de statut qui a été donc à l'occasion de ce premier recueil qui a jamais été fait de revendications collectives, hein, parce que c'est les personnes, les délégués d'un peu partout en France se rejoignaient à Paris pour préparer ces revendications, les mettre ensemble. On a même vu Sonia dans son livre partage un projet qu'elle a fait, elle a dit bon, d'autres, ils ont pas voulu, il a été refusé, mais celui-là il est vraiment issu des concertations et on a un petit peu eu envie de vous présenter juste les articles qui nous parlent, parce que de toute façon vous allez vous pouvez retrouver l'entièreté de la brochure, donc du texte de la brochure, et bientôt la brochure elle-même bien signée sur le site de Tulia. Vous avez un résumé vraiment plus en détail aussi des revendications dans le zine, et juste après je vous montrerai effectivement les mettre en parallèle avec les revendications de maintenant. Mais on en a trois, on en a choisi trois chacune de celles qu'on trouvait intéressantes. C'est la première, c'est pour moi, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ok. Article 4. Dans toute considération sur les lieux possibles de prostitution, la sécurité des femmes prostituées doit être gardée comme prioritaire. Par conséquent, il ne faut pas leur interdire de se grouper, notamment en partageant un même appartement si elles le désirent. Deux femmes prostituées vivant ensemble ne constituent pas automatiquement une assistance à proxénétisme, ni une augmentation de profit, mais bien plutôt une assistance à sécurité de chacune, leur permettant d'éviter par là bien des agressions dont les prostituées sont trop souvent victimes, ce qui explique les gros chiens de garde qu'elles ont très souvent avec elles. J'ai choisi cet article-là notamment parce qu'il est complètement d'actualité, c'est un truc qui n'a pas changé. J'ai pas de chien chez moi, mais bon, voilà, j'ai des chats de garde.
Article 9. Selon la loi en cours, les femmes prostituées ne sont pas des délinquantes. Il est donc inadmissible que la police exerce sur elles un contrôle permanent et qu'elles soient regardées par certains comme leur chasse gardée, avec le souci d'en faire la capture, à chaque fois, une prime de capture en guise de récompense pour leurs bons exploits de chasseurs. Cette manière de faire est une atteinte à leur dignité. En tant que personne, les femmes prostituées revendiquent donc que leur soit appliqué le régime commun à tous citoyens et citoyennes en matière de surveillance sur la voie publique, n'ayant pas à être surveillés plus que tout autre. A-t-on jamais vu des ouvriers ou des vendeuses se faire contrôler plus particulièrement pendant leur travail par les services de police ? Bon, du coup, moi, j'ai pris ça parce que j'aime vraiment pas la police. Voilà. Et que je suis toujours contre les contrôles policiers, même maintenant, même si aujourd'hui, c'est plutôt d'autres populations qui sont spécifiquement visées.
Le suivant, c'est moi aussi.
Ouais.
Du coup, article 12. Le fichier concernant les femmes prostituées est depuis longtemps supprimé en raison de l'article 5 de la loi du 13 avril 1946 qui spécifie que sont abrogées toutes dispositions réglementaires prévoyant l'inscription des personnes prostituées sur des registres spéciaux de la police ou l'obligation pour elles de se présenter périodiquement au service de police. Registres et fiches seront détruits. En vertu de cette loi, il est donc illégal que les services de police continuent de mettre en fiche chaque femme prostituée sur le trottoir. Ils prétendent qu'ils en ont besoin pour leur service interne d'organisation de la police. Mais alors, quelle différence y a-t-il avec l'ancien fichier ? Il est de même inacceptable qu'une femme prostituée qui veut quitter la prostitution soit obligée d'aller se faire déficher, suivant le vocabulaire d'usage, au commissariat. Qu'est-ce que c'est ces fichages ? Et défichage veulent dire ? Par rapport à cette soi-disant liberté française de pouvoir disposer de son corps en vue d'une prostitution privée. Qui plus est, il est également à peu près certain que les services de police gardent toujours les dossiers des femmes prostituées pour raison de sécurité publique, alors que tous les dossiers devraient être détruits. Du coup, j'ai choisi cet article-là, ce fichage, parce qu'on est encore aujourd'hui sur des problématiques très modernes. On fiche plus particulièrement les prostituées, mais on fiche beaucoup de gens. De plus en plus, et là, bientôt, il y a la loi narcotrafic qui va passer, qui va augmenter la possibilité de fichage de la police, et ça concerne absolument tout le monde. On est fiché pour nos publications sur les réseaux sociaux, pour nos opinions religieuses, si on a fait une tentative de suicide aussi, on est légalement fiché et considéré comme une personne à surveiller. Voilà, donc lutte contre le fichage et contre le pouvoir absolu de la police est encore très très contemporaine.
Si on reste chronologique, tu voulais nous lire aussi l'article 16 et après je vais terminer.
Et donc, l'article 16, qui est un peu plus court cette fois. Toutefois, puisque gagnant de l'argent, les femmes prostituées ne refusent pas de participer, comme tout citoyen et citoyenne, à l'effort collectif, par une contribution financière. Le plus modeste des travailleurs ne verse-t-il pas sa quote-part à l'État ? Il ne serait pas juste que les femmes prostituées n'en fassent pas autant. Voilà, c'était pour rappeler aux gens qui se plaignent des impôts et de la mise en commun de notre argent que les communs sont importants et que c'est important d'avoir un service public efficace. Voilà. Macron démission.
Ouais, je vais pas le lire en complet, mais je vais en lire une partie. En fait, moi, j'ai choisi. Ils ont parlé de travail, de finances, de santé et de social. Donc ça, c'est un article qui fait partie de la section plutôt santé. Donc une chose que je trouvais assez cool. Donc entre autres dispositions possibles, et pour pallier à la difficulté d'un contrôle toujours délicat à effectuer, et là on parle des ST hein, pour le contexte, les femmes prostituées font une proposition concrète en réclamant la possibilité de se faire examiner gratuitement par tout médecin de leur choix pour toutes les maladies vénériennes. Mais pour éviter à nouveau pour elles seules un privilège à caractère plus ou moins discriminatoire, elles demandent que cette mesure soit étendue à tout citoyen, citoyenne. Susceptible d'être atteint par ce grave péril vénérien qui concerne l'ensemble de la population. À cet effet, un genre de médecine du travail serait envisageable, à savoir un genre de clinique d'accueil confidentielle offrant gratuitement des traitements rapides. Et moi, je l'ai sorti parce que vraiment, ça nous dit qu'elles ont inventé les CEGID, les centres gratuits de dépistage. Voilà. Elles avaient cette idée qu'elles n'étaient pas strictement des vecteurs, et ça, on l'a d'autant plus vu dans le Covid. Les médias parlent des prostituées, des travailleuses du sexe, comme étant des vecteurs de maladies, non pas des victimes de maladies. Et elles citent notamment dans ce projet de statut des statistiques qui prouvent qu'en fait, ce ne sont pas elles les principaux vecteurs de maladies vénériennes en France. C'est encore la réalité maintenant avec les IST. On sait qu'on est des populations qui, lorsque c'est possible, se dépistent le plus et se protègent le plus aussi. Et pour terminer, donc, l'article 30, qui est le dernier donc, de ce projet de statut, il est évident que si toutes les jeunes prostituées avaient tous leurs droits aux prestations sociales, il y aurait beaucoup moins de problèmes pour la réinsertion de ces dernières. Une jeune femme, en effet, qui percevrait toutes ces prestations normalement, si elle voulait s'arrêter de travailler, le pourrait beaucoup plus facilement, ne se sentant plus isolée ni pestiférée. Et je l'ai particulièrement choisi parce que ça m'arrive très souvent de dire que la CAF, c'est un des organismes qui met le plus de gens sur le trottoir. C'est-à-dire que quand il y a des redressements, quand il y a des contrôles qui sont soudains, on voit des collègues qui ont déjà exercé mais qui avaient arrêté et qui disent « comment je vais faire pour rembourser tout cet argent ?» Et la seule solution qu'ils voient, c'est la solution par laquelle ils ont déjà réussi à sortir des moments les plus difficiles. Et donc, très souvent, elles vont reprendre le travail du sexe dans un contexte de difficulté d'accès aux droits sociaux et de redressement. Et donc, j'ai fait des petites diapos juste pour montrer vite fait les revendications d'époque et les revendications de maintenant. Ah, il est déjà ouvert, pardon. Donc en particulier les revendications qui sont communes, qui n'ont pas changé, c'est tout le vocabulaire qui a changé, c'est-à-dire qu'à l'époque, on va dire la prostitution est un acte privé et libre. Et ça, c'est le point de vue abolitionniste, c'est-à-dire que avant la fin des maisons closes, on était dans un système qu'on dit réglementariste, et lorsque on a parlé d'abolition, on ne parlait pas d'abolition strictement de la prostitution, on parlait de l'abolition des lois encadrant la prostitution. Et donc quand on les a abolies, on a fait de la prostitution un acte privé libre, et les femmes, quand elles en parlent dans leur texte, elles disent on est libre de le commencer et on est libre de l'arrêter. Et ça, c'était une réalité qui n'était pas la même dans un cadre de réglementariste. Les femmes prostituées de l'époque, elles ont extrêmement peur de la réouverture des maisons closes. Il y en a beaucoup qui les ont connues parfois dans les colonies aussi, où elles ont continué après la fin des maisons closes en métropole. Et évidemment, les condés, les établissements clandestins qui continuent et qui ont aussi certaines conséquences comme ça. Et donc, quand elles parlent de dépénalisation, comme nous, on le fait maintenant, elles utilisent d'autres mots, mais elles vont parler finalement de l'abolition d'une partie de l'infraction de proxénétisme, surtout tout ce qui pourrait avoir trait au lieu de travail, lorsqu'il n'y a pas d'abus, et à l'entraide entre les personnes. Elles ont aussi très très peur d'une ouverture des maisons closes qui soit municipale ou de se retrouver comme fonctionnaire du sexe ou spécialisée du sexe. Elles ont peur en fait qu'on leur donne un statut sans les consulter qu'on leur impose. Et ça, c'est des trucs qui n'ont pas changé. Dans les grandes revendications des travailleurs et travailleuses du sexe, ce qui fait l'unanimité ou presque, c'est la reconnaissance du travail du sexe comme un travail et la décriminalisation du travail du sexe, incluant les parties tierces, donc les personnes qui sont impliquées mais qui n'abusent pas de la situation. Donc ça peut être les gens qui vous louent un logement, les gens qui prennent cuisine gratuitement lors d'un lancement, ou les personnes qui vous laissent avoir un compte bancaire, et voilà, tout plein de les choses assez banales de la vie d'un peu tout le monde, quoi. Et qui, par la définition du proxénétisme, qui n'a quasiment pas changé entre 1975 et 2025, voilà, maintenant on a le droit d'avoir des conjoints et de vivre avec, à condition de gagner moins qu'eux, qu'ils puissent justifier de leurs ressources, et qu'ils ne vivent pas à nos crochets. C'est la seule petite modification qu'il y a eu depuis 1975. On a aussi les questions. Bon, il parle de définir clairement l'attitude de nature à provoquer la débauche. C'est ce qu'on appelait le racolage. Mais il disait, si on n'a pas le droit de dire des choses, de se comporter d'une certaine façon dans l'espace public, soit, il n'y a pas de souci. Mais définissez précisément. Et c'est pas juste moi quand je vais faire mes courses parce que je suis connue en tant que prostituée, on va m'arrêter parce que là, je suis soi-disant en train de racoler. J'appelle le syndrome de j'existe donc je tapine. C'est une forme d'existentialisme. Et donc, voilà, elles luttent contre les discriminations, mais elles ne le font pas dans les mêmes... Maintenant, la lutte contre les discriminations a aussi beaucoup évolué. Mais en gros, elles ne veulent pas être arbitrairement subir de la répression. À l'époque 75, elle parlait de la fin du fichage, ce que tu nous as lu notamment, qui avait été officiellement abrogé en 60, je crois, lors de la ratification de la lutte de la Convention internationale de la lutte contre la traite. Alors en 2025, ce n'est pas les faits de prostitution maintenant qui entraînent un fichage, quoique. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient relativiser. On a déjà parlé dans des assauts de santé communautaire que pour l'accès à un parcours de sortie de la prostitution, on leur avait demandé un certificat de prostitution pour prouver, parce que comme les policiers ne les connaissaient pas, ils ne voulaient pas accepter leur dossier dans le parcours de sortie. Donc voilà, ça pourrait être relativisé, mais il n'y a plus un fichier. On ne demande plus aux gens d'aller se faire ficher et d'aller se déficher d'un fichier qui n'existe pas officiellement. Mais par contre, il y a vraiment des répressions à l'égard des migrantes, donc du fichage plutôt, les OQTF et tout ça. Et donc, il y a des revendications maintenant qui sont plus sur la question migratoire, qui n'existent quasiment pas en 75. Dans les revendications communes, on pourrait parler de la lutte contre les IST, la lutte pour l'accès à la santé, qui est quand même... encore proche, mais c'est les mots qui ont changé. On parle maintenant de l'approche communautaire depuis les années SIDA. La crise du SIDA a vraiment fait évoluer notre vocabulaire et nos moyens de lutte et d'auto-organisation. Et maintenant, donc, on va parler de réduction des risques, de prévention et d'approche communautaire. Alors qu'en 75, on était très spécifiquement sur « donnez-nous la gratuité des dépistages, mais ne nous forcez pas à les faire ». On reste sur des mots qui ressemblent, quoi, sur des revendications similaires. Au niveau social, elle réclamait vraiment des trucs assez universels, d'avoir accès aux droits sociaux, d'avoir un bon filet social pour ne pas être réduite à la prostitution dans des conditions très difficiles. C'est un peu la même chose qu'on va dire maintenant, en fait. À partir du moment où les gens ont réellement accès aux droits, la prostitution, si le filet social est très bon, il y a très peu de personnes qui l'utilisent comme filet. Ça va assez de soi. Et donc, on va plutôt aller, comme il y a les enjeux migratoires maintenant qui sont assez différents, on va plutôt aussi parler de l'accès au titre de séjour, au droit à travailler, parce que pour les femmes migrantes, c'est quasiment l'option par excellence pour les personnes qui n'ont pas accès au marché du travail classique. Elle demande donc l'accès à de l'information. Ici, de nos jours, on va parler plutôt du soutien aux associations communautaires, ce qu'elles font un accompagnement qui est au plus près des réalités des personnes, avec une approche par et pour les personnes. Il y a des revendications qui maintenant sont un peu caduques, c'est comme ça que je les ai appelées, mais grosso modo tout ce qui est sur la fiscalité, étant donné qu'il y a eu la création de l'auto-entrepreneur, le statut d'auto-entrepreneur et tout le développement qui s'est fait autour de ça, en tout cas pour les personnes qui ont le droit de travailler, qui veulent entrer dans le système, il y a cette porte maintenant, et donc on a gagné un droit, c'est le droit de bien cotiser, et cotiser non seulement aux impôts, mais aussi à l'URSSAF. Et on peut même avoir des trimestres de retraite. On a droit à la même précarité que le reste de la Startup Nation. Parfois sans compte en banque, ouais. Et sans terminal de paiement, parce que quand même, c'est du proxénétisme de nous aider à encaisser et à payer nos cotisations. Voilà, donc à l'époque, elles ont beaucoup de revendications là-dessus. Maintenant, on en a beaucoup moins. Ce n'est pas tant un sujet, en tout cas dans le plaidoyer qu'on fait actuellement. Et par contre, il y a des nouvelles revendications qui ont émergé avec l'évolution du travail du sexe et l'évolution de la société, où on va notamment, à l'époque, dans leur projet de statut, elles ne parlent pas de lutte contre les violences, par exemple. c'est pas leur préoccupation principale à l'époque. Maintenant, la lutte contre les violences, elle est d'autant plus importante que la France définit par son néo-abolitionnisme, alors néo-abolitionniste, c'est-à-dire on pénalise les clients, on pénalise les parties tierces, ce n'est pas comme l'abolitionnisme de l'époque, on ne dit plus on veut abolir les lois, on dit on veut abolir la prostitution. Et ce néo-abolitionnisme en France dit toute prostituée, toute travailleuse, travailleur du sexe sont victimes. Et lorsqu'elles sont déjà victimes parce que la prostitution est une violence, la lutte contre les violences par les personnes est beaucoup plus compliquée. Et c'est donc quasi impossible de financer des projets comme Projet Jasmine, qui est un programme de lutte contre les violences de Médecins du Monde, qui est très axé, très ancré dans la communauté, dans le communautaire. Et en fait, ils ont de la difficulté à obtenir des financements, ne peuvent pas obtenir des financements publics, parce qu'il ne s'agit pas de lutte contre la prostitution, mais de lutte contre les violences par les personnes travailleuses du sexe. Et donc maintenant, on connaît l'importance de la démarche communautaire et on exige d'être consulté lorsqu'il y a des politiques qui sont élaborées à notre sujet. Et donc c'est la pire chose de dire « je suis complètement d'accord avec vous, on va rouvrir les maisons closes ». C'est la phrase la plus démoralisante qu'on a à peu près tous les mois quand on fait du plaidoyer politique en tant que DS. Mais c'est une réalité, les gens n'écoutent pas les revendications concrètes qui sont portées, ils vont plutôt projeter une situation qu'ils croient être meilleure pour nous, alors qu'en fait, on a des revendications concrètes, on pense par nous-mêmes et on les articule. Donc voilà, et il y a effectivement aussi tout ce qui est titre de séjour et la lutte contre les discriminations sexistes, racistes et transphobes, et des revendications plus spécifiques pour les personnes trans, pour l'accès aux transitions, au changement de l'état civil, donc, qui sont des freins aussi pour l'intégration, l'accès au marché du travail, etc. Donc c'est des questions qui n'étaient pas des sujets à l'époque. Et là, je me suis basée en fait sur les revendications qu'on a écrites dans le livre TDS, Témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe, parce que ce sont des revendications qui faisaient pas mal consensus lorsqu'il y a eu l'évaluation de la loi de pénalisation du client faite par les associations communautaires. Donc on a repris, à l'époque il y avait pas mal d'assos alliés aussi, justement comme AIDS et Médecins du Monde, qui avaient aussi co-signé ces revendications-là. Donc c'est un peu la base du consensus, celle que je vous ai présentée. Bon, après, c'est l'éducation à la sexualité, les mécanismes contre la traite, tout ça. Voilà. Je pense qu'on est où ? Ok, on en arrive à la question de Tulia. Qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Et puis, je voulais aussi vous permettre d'ouvrir pour une période de questions. Qu'on puisse échanger, sachant qu'à partir de 20h10 environ, on va avoir la chorale des branleureuses qui vont venir se joindre à nous pour nous faire quelques chants, dont au moins un chant de Saint-Nizier. Nous, dans les archives, on en a trouvé un deuxième aussi. Mais comme les enregistrements n'étaient pas disponibles, vous n'avez pas nécessairement la polyphonie derrière. Et on vous invitera à chanter avec nous si vous le voulez, parce que bien évidemment, dans l'usine, il y a aussi les paroles de ces deux chansons de Saint-Dié. Et après, les branleureuses, c'est une chorale engagée, et donc ils ont d'autres chants qui pourront vous présenter. Pour Tulia, Raph, est-ce que ça te dirait de parler un tout petit peu du projet ANR ? Est-ce que c'est quelque chose que...
Oui, on peut le présenter rapidement. Tu veux que je vienne un petit peu m'installer ou on peut faire ça dessus ?
Oui, si tu veux.
On peut en discuter un peu.
Parce qu'en ce moment, en fait, il y a trois projets principaux. Donc il y a les projets autour des archives de Saint-Nizier, archives militantes au sens plus large entre 70 et 90. On va bientôt faire un voyage d'études d'ailleurs à Genève pour aller voir le centre d'archives Griselidi Réal. Voilà, on est attendu par Jeanne, on va passer un petit moment là-bas à fouiller parce que bien sûr jusqu'au 2 juin c'était la course, mais on veut quand même continuer à sortir un max d'informations et de voir comment les premiers collectifs de prostituées qui s'appelleront bientôt travailleurs et travailleuses du sexe à partir des années mi-80, fin 80. Donc il y a ces projets-là. Il y a les projets aussi ANR, donc Agence Nationale de la Recherche. Raph va nous en faire un petit mot. Et on a également les ressources sur le travail du sexe. qui sont une page assez grande, mais qui commence à se fragmenter, où là, à chaque fois que... En fait, l'idée derrière ça, à l'époque, c'était « Cybèle, c'est quoi déjà l'article dans lequel on parlait de... » Et c'était super intéressant. Et en fait, j'avais plus envie d'être voilà, le goulot d'étranglement des connaissances. Et hop, on met ça sur la page ressources, on le met au bon endroit. Et à terme, peut-être faire un catalogue encore plus étoffé et qui permette de faire une petite présélection pour les personnes plus débutantes sur le sujet, d'avoir un côté un peu pédagogique, des chemins à travers les différentes ressources, les coups de cœur. Et... Donc ça, c'est un peu les trois projets. Alors, je te laisse nous parler du projet ANR, si tu le veux bien.
Le projet ANR, du coup, un petit peu plus spécifiquement. Donc, un projet de 18 mois qui rassemble à la fois des chercheuses et chercheurs issus du monde académique, français et au-delà, bientôt au niveau... européen. C'est un projet qui grandit au fur et à mesure de par ses membres. Mais aussi, c'est un projet collaboratif, participatif. C'est un projet d'échange, le plus possible à égalité, entre le monde académique d'une part, mais surtout le monde de la santé communautaire, le monde des associations de soutien ou de lutte par pour les TDS. Le principal partenaire de cela, c'est la Fédération Parapluie Rouge, du coup, qui copilote ce projet. Du côté académique, il est piloté par Benoît Schmalz, du coup, de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne pour le laboratoire CERCRID. Du coup, c'est un projet qui s'articule autour de trois volets. Je vais partir du moins important, aller jusqu'au plus important. Je pense que c'est plus sympa comme ça. Ils sont tous très importants, bien sûr, mais ils sont plus ou moins importants en termes de masse de travail, surtout. Celui qui demande peut-être un petit peu moins de travail, c'est le volet formation. Voilà. Dans la recherche universitaire, on fait beaucoup de formation par la recherche, et du coup, là, il y a une association sématique d'étudiantes et d'étudiants de l'Université Jean Monnet, principalement, à nos démarches de recherche, d'organisation au sein de ce projet. Il y a des ateliers d'écriture aussi et de réflexion spécifique qui vont se faire autour notamment de la jurisprudence en matière de souvent de réponse plutôt du travail du sexe, bien sûr. Le second aspect, le second volet, c'est plutôt un volet à dominante, on va dire, académique, un petit peu bilan et perspective autour du droit applicable au travail du sexe en France et aussi un petit peu en Europe, puisque du coup vous savez sans doute peut-être pas qu'il y a eu plusieurs lois de réforme, de décriminalisation du travail du sexe en Belgique, et du coup notre projet est en train de s'associer avec de la recherche académique en Belgique, du coup, pour organiser notamment des événements de rencontres et d'ateliers pour essayer de faire germer différents sous-projets ou futurs projets autour du travail du sexe et du travail sur le droit et les politiques du travail du sexe. C'est ça que veut dire DPTS 2026, donc droit et politique, au pluriel, entre parenthèses, du travail du sexe, 2026. Là où il y a, j'ai l'impression, le plus de travail en ce moment, c'est sur notre grand volet de consultation. C'est pas totalement l'entièreté de la chose. En réalité, on fait une consultation communautaire avec des personnes que je vois d'ailleurs ici aujourd'hui dans la salle et que je salue. Bonjour Céline Beldan, du coup, qui pilote actuellement les ateliers de consultations communautaires qui vont bientôt commencer, qui vont se faire dans plusieurs grandes villes de France, à commencer bientôt par Lyon, en direct, pendant les célébrations à venir, très très bientôt. Voilà, il y a un stand qui va se faire. Voilà. Donc le projet, c'est une consultation communautaire des TDS par les TDS sur leurs préoccupations, leurs revendications autour de leur activité du travail sexuel, autour du cadre juridique aussi, du travail sexuel, pour savoir ce qui est critiquable en soi, on s'en doute peut-être un peu, ce qui pourrait être changé et dans quel sens. On a déjà eu peut-être un bon aperçu par l'excellent comparatif que vous avez fait là, c'était vraiment très... mais voilà, on veut quand même savoir ce qui se dit aujourd'hui, et donc ces ateliers vont se faire dans les semaines qui arrivent. Ils vont donner lieu à une analyse sociologique, du coup. Tout ça pour arriver à une deuxième partie de ce projet qui est l'écriture par les TDS et pour les TDS, encore une fois, d'une proposition de loi, en fait, d'une proposition de réforme du cadre juridique du travail du sexe en France. Voilà.
Merci beaucoup. Julia participe aussi dans le cadre d'un atelier qui s'est greffé au fil de tout ça, l'atelier lexique, dans lequel on fait une consultation dans le but de faire un lexique des mots utilisés par les TDS, mais avec une intention très concrète qui est celle de donner un cadre aux personnes dans le milieu académique, aux journalistes, aux politiques, aux militants, en disant voilà, ces mots-là, on les aime, ces mots-là, on les aime, on préfère que vous parliez de nous de cette façon, etc. Donc faire un travail qui est beaucoup inspiré par le travail qui a été fait notamment par l'association des journalistes LGBT, pour comment on parle des personnes trans, des personnes queer, donner des recommandations, mais qui sont issues au plus près des réelles pratiques lexicales et des envies et des rejets de la communauté. Il y a un peu une guéguerre au niveau journalistique entre les expressions travailleurs et travailleuses du sexe, voilà, où on va parler de victimes, de personnes en situation de prostitution, et en fait ça recouvre voilà, des situations différentes, et les personnes en situation de journalisme et les personnes en situation de travail social sont assez confuses sur les façons dont elles doivent voilà, les personnes en situation de recherche, après ils sont coincés entre plusieurs points de vue. Donc voilà, nous on va faire un lexique fait au plus proche des TDS avec l'assistance de chercheurs aussi pour pouvoir analyser tout ça. Et après, dans les projets qu'on a, on a plein de projets. Moi, au départ, quand j'ai créé Tulia, le but, c'était de créer des outils, une trousse d'outils que pouvaient utiliser les TDS lorsqu'elles étaient invitées à aller témoigner dans une école d'EDUSP ou dans un centre d'action communal. Voilà, on invite souvent, parce que venez nous parler, on n'est pas très formés, mais venez témoigner de votre réalité. Le témoignage, c'est une première chose, mais après, de pouvoir dire, voilà, on passe de l'information, on sait des choses, on a acquis des savoirs au contact de nos communautés, et donc on peut vous donner même carrément de la formation. Et si on a des activités clientes avec aussi des petites vidéos résumées, et qu'ensuite les TDS peuvent aller et dire, on regarde la vidéo, on en discute après. Et ça va permettre à des personnes qui n'avaient pas nécessairement fibre de formateurice de dire OK, moi je vais y aller former parce que j'ai déjà un peu de matériel et ça m'accompagne. Donc ça, c'était un des projets de la formation qu'on a mis un petit peu de côté. Il y a aussi un projet de créer une trousse à l'attention des syndicalistes, des personnes qui sont militants au niveau des syndicats et qui manquent parfois d'arguments qui parlent à leurs collègues pour pouvoir pousser à remettre en question leur position sur le travail du sexe, qui sont souvent très éloigné en fait des revendications des personnes travailleurs et travailleuses du sexe. Il y a très peu de syndicats. Malheureusement, c'est un des endroits on dit il y a les féministes, le mouvement queer et le mouvement syndical. Et le mouvement syndical, c'est un rendez-vous qui a été manqué. Déjà en 75, Chantal en parle pas mal et j'étais très en colère en lisant son livre et en voyant comment ils ont été traités dans le milieu syndical à Montpellier en 76. Je pense que en fait, si on a des outils, on va pouvoir permettre à chacune des personne qui est un peu impliquée dans son syndicat, pas arriver les mains vides et de pas non plus réinventer la roue à chaque fois. Donc il y a ce groupe de travail. Et une chose qui est aussi géniale, c'est qu'on a fait un pont avec aussi à Lyon notamment, mais pas qu'à Lyon, Wikipédia. Donc on a rencontré des gens en lien avec Wikipédia Lyon et avec, on est en lien avec les 100 pages qui est un collectif de Wikipédiennes qui souhaite augmenter le nombre et la qualité des biographies des personnes minorisées sur Wikipédia. Donc on sait qu'il y a assez peu de biographies féminines, parfois il y a un manque de sources secondaires, voilà, c'est mal couvert par les médias, forcément il y aura moins de sources pour alimenter ensuite l'encyclopédie. Mais il y a un travail de fond qui peut être fait quand même pour essayer de changer un peu la tendance. Et c'est un milieu assez intéressant parce que les articles sur la prostitution, moi, quand je les regarde, je me fais un double facepalm. Parce que voilà, on ne parle jamais de dépénalisation, par exemple. On va dire que les travailleurs et travailleuses du sexe sont réglementaristes, sont en faveur des maisons closes. Encore une fois, on leur attribue des revendications qui n'ont rien à voir avec celles qu'elles ont réellement. Et donc, si on peut arriver avec du matériel sourcé, on peut améliorer la qualité de l'information auquel le grand public a accès, et les étudiants, et tout le monde, en fait.
Donc il y a ce projet de savoir mieux, nous, en tant que TDS, aller éditer Wikipédia, le faire de façon efficace et correcte en respectant l'esprit de l'encyclopédie. Et d'un autre côté, d'aller chercher peut-être des gens qui viendront peut-être un jour aux archives ici à Lyon, qui ne sont pas des TDS, mais qui, sur le travail qu'aura fait Tullia de sourçage, pourront reprendre ces sources, améliorer eux aussi, donc amener leur force de travail pour améliorer les articles sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, c'est des idées. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur Tullia et sur l'usine, tout ça ? Ou sur nos projets, ou des idées de projets pour nous ?
Merci beaucoup, c'est super ce que vous avez fait. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a le projet de traduire tout ça dans d'autres langues, notamment en espagnol ? Le zine par exemple, voilà. Est-ce que c'est voilà.
Alors si tu connais des gens qui sont déter pour traduire le zine espagnol, vas-y, tu peux prendre, c'est offert. Vous faites ce que vous voulez si c'est pour que ce soit plus diffusé. Enfin, moi, je suis très très mauvais en langue, mais du coup.
Creative Commons. Je veux vraiment. On peut vraiment le traduire, pas besoin de nous demander la permission. L'idéal, c'est de remettre que c'est Tullia Dem. En vrai, je pense que de base, si on n'avait pas eu Sonia qui nous a dit « lancez le zine de Tullia ici », on n'aurait peut-être pas mis Tullia dessus, en fait. On voulait vraiment que les gens le partagent, aussi de le prendre. Et puis, l'esprit du fanzine, c'est vrai que c'est aussi souvent... Il n'y a pas d'auteur écrit. Là, on l'a écrit, effectivement, parce qu'on en a fait un événement. De base, on ne voulait pas nécessairement recevoir les lauriers, on voulait que ça circule. Et donc, ça peut être modifié, ça peut être amélioré. Et si vous avez besoin des textes, on peut les fournir aussi, effectivement. Mon espagnol, je le parle un peu, mais il n'est pas, je pense, assez bon pour bien faire ces choses-là. Ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à le faire sur le site web, de mettre au moins une bonne traduction automatique. Quand on écrit bien les textes en français simplifiés, en général, la traduction automatique, elle marche assez bien. Donc ça peut être aussi une option, mais pas pour le zine, effectivement.
Déjà, merci pour votre présentation, c'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment une question très pragmatique. Donc, vous travaillez toutes les deux, mais vous avez passé énormément d'heures à faire ça. Comment avez-vous financé ce zine et comment ça se fait qu'on en a des versions imprimées à prix libre ce soir? Je ne sais pas siffler, donc je ne vais pas siffler.
Non, concrètement, effectivement... J'ai mis la mise de fonds initiale. Mon revenu principal est le travail sexuel qui me donne un peu de marge de manœuvre dans la vie. J'ai certaines convictions. Voilà, je ne veux pas non plus que... Je suis quelqu'un qui a vécu sans argent assez longtemps, hein, déjà de base. Donc mon rapport à l'argent est peut-être un peu particulier. Et je ne veux pas non plus que l'argent soit un frein, en tout cas pour la base des choses. Après, le truc se diffuse et on verra. Hein, mais effectivement, les copies imprimées... C'est un travail du cul, voilà, très concrète. Mais effectivement, le zine est à prix libre. Si vous souhaitez contribuer, y a la table et la petite caisse devant laquelle tu te trouves, parce que tu es la personne qui est à la charge de la petite caisse. Les gens peuvent adhérer. Il y a déjà des gens qui ont adhéré. On a un compte en banque. Vous ne réalisez pas ? Merci. Emma nous a trouvé un compte en banque. Sachez que les roses d'acier, l'assaut de travailleuses du sexe chinoise, a dû passer par un compte Banque de France, a dû prendre un avocat pour avoir un compte en banque. C'est pas anodin. L'association des alliés des TDS, dont la présidente est juriste, a eu 3 refus avant de pouvoir ouvrir un compte. Voilà, on est sur de la stigmatisation qui est extrêmement large. Juste de dire qu'on est en faveur des droits des TDS. Moi, ma banquière m'a dit non, mais c'est pas possible en fait, on va même pas en parler. Donc voilà, on a un compte en banque, on a un compte Hello Asso, on peut recevoir des dons via Hello Asso aussi. Donc volontiers, hein, si vous voulez y contribuer, je serai un petit peu moins sollicitée. Et vous serez un petit peu moins proxénète, voilà, par la force des choses.
C'est pas une question fondamentale, mais c'est entre la blague et le... voilà. C'est super ce travail de commencer à bosser avec les gens de Wikipédia, mais du coup, est-ce que Wikiputia est un projet de Tullia ?
Alors, il est où mon sac ? Parce que j'ai un badge Wikiputia, moi, maintenant. Non, c'est pas celui-là. Je sais pas où il est, le petit sac marron, là.
En fait, j'ai ce que M. L'Espérance appelle des fans. Ah, il est là, oui. J'ai des fans et j'ai posté cette image de voilà, Wikipédia. J'ai fait un peu à l'arrache parce que je suis connue pour mes t-shirts aussi. Monsieur L'Espérance en porte un en ce moment. Je sais pas si tu veux bien le montrer. Alors je vais le dire, c'est écrit Osband Experience 0 euro de l'heure. C'était pour aller avec mon autre t-shirt que j'appelais Racolage Passif, qui lui était voilà, Girlfriend Experience. Et les tarifs ont changé depuis. Mais donc voilà, j'ai quelqu'un qui m'a effectivement fait ce petit badge Wikipédia parce que je savais que j'aurais pas le temps de faire le titre avant les événements de commémoration. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si on va vraiment faire un Wikipédia, mais la putothèque est quelque chose de très réel. Et pour l'instant, on prépare, grâce à l'influence de Sonia et d'Anne-Marie, ici aux archives, on prépare le futur fonds Cybèle L'Espérance d'archives. Donc on se dit maintenant, en tout cas autour de Tullia, et dans une démarche personnelle, qu'on va faire partie de ces personnes qui vont tenter d'archiver les luttes et de les rendre disponibles pour les 50 prochaines années, si possible. Par contre, c'est vrai que je suis censée acheter un appartement dans lequel travailler et que maintenant, je cherche non plus un studio, mais un T2, parce qu'il faut quand même avoir une salle pour mettre tout ça. Parce que là, il y a un moratoire sur l'acquisition des livres. Et oui, on m'a dit, un frigo, il y a déjà des étagères dedans, on a-t-on vraiment besoin. Mais je ne vis pas seule et ça se négocie difficilement. Voilà. Oh, la putothèque. C'est... En fait, j'ai commencé à collectionner les livres sur le travail du sexe. J'ai juste commencé à en acheter par intérêt, j'essaie de les lire. Et j'ai toujours été... En fait, je suis un peu monomaniaque quand je rentre sur un sujet. Avant, j'étais une autostoppeuse. Et donc, j'avais commencé à lire ce qui se faisait sur l'autostop. Et ça me donne du contenu pour alimenter. Donc, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des live tweets, voilà, qui sont dans un événement et qui vous racontent l'événement phrase par phrase sur les réseaux sociaux. Ben, moi, je faisais ça, mais avec des livres. Donc je lis le livre et je prends mes notes au fur et à mesure, je partage. Après, paf, ça peut se retrouver sur la chronologie, ça peut se retrouver sur une page. C'est plus facile de créer un article ou de partager, de commenter. Donc je fais de la veille média depuis longtemps. Et dans la veille média, hop, il y a un nouveau livre qui sort. Et une fois qu'on commence, ça devient un peu addictif, je pense. Et là, sur la période 75, par exemple, il y a des livres qui sont rares maintenant, qui sont difficiles à trouver. Bon, tant que possible, j'ai essayé de les trouver parce que dans les bibliothèques, oui, j'aurais pu venir à Lyon lire le livre de Claude Jaget, mais déjà, l'aller-retour de Lyon, c'est 40 balles. Donc, tant qu'à y être, on va acheter le bouquin et en avoir une copie et essayer de la préserver. Donc, voilà, ça a commencé comme ça et ça prend beaucoup de place. Et on a les livres qui sont aussi d'obédience abolitionniste. On a toutes sortes de... Voilà, il y a des sujets qui peuvent aller très, très largement, autant sur les droits, sur la sociologie, sur l'économie. Et beaucoup de témoignages aussi sur la prostitution qui sortent. Et j'aime bien racheter les livres des collègues. Je pense que c'est important de connaître leur parole la plus directe possible, la moins médiée possible. Et puis après, avec Vlad, on se les échange, les livres. Et des gens... Bon, j'en perds de temps en temps parce que je les prête, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on n'est pas dans une grande ville d'en faire une bibliothèque plus accessible, mais en tout cas on en cherche des copies numérisées, on se les passe un peu sous le coude, voilà, c'est ça la putothèque. Mais à la base c'était une mise en commun de collègues sur des films, des interviews, documents qui ont beaucoup circulé entre nous, donc des choses qui malheureusement ne sont pas libres pour la majeure partie, et donc on doit se refiler dans l'illégalité, mais qu'on le fait à destination privée, à destination d'études, et parfois des choses qui disparaissent si on ne les archive pas nous-mêmes comme ça, parce qu'elles ne sont pas une grande célébrité, voilà, elles ne sont pas forcément archivées autrement que ça, quoi. Alors, on n'a pas connaissance de réponse de Simone Veil.
A priori, moi, de ce que j'ai lu dans les journaux, et c'est même commenté par certains journalistes, Simone Veil a royalement ignoré la situation, il me semble. Alors, à moins qu'on fasse une découverte surprenante dans les mois à venir, je te tiendrai au courant, mais je ne crois pas qu'elle a ignoré totalement le sujet.
Il y avait le père Delorme, notamment, qui nous suggérait de tenter d'obtenir les archives qui seraient accessibles maintenant au ministère de la Santé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment la nomination de Guy Pinot s'est faite, notamment, parce que très probablement que Simone Veil avait aussi les mains un peu liées. On est à l'époque, 1975, on en parle dans le Zine, c'est l'année internationale de la femme. On a le premier secrétariat d'État à la condition féminine et des réponses assez lunaires de la part de la personne qui a ce premier poste. Mais effectivement, on n'a pas pu aller plonger plus loin. Il y a une autre Simone qui s'y est beaucoup plus intéressée, par contre, c'est Simone If. Qui, au Mouvement français pour le planning familial, a accompagné, même dans les années 80, la création des premiers collectifs vraiment plus institutionnalisés de femmes prostituées ou de personnes prostituées. Et ça a été domicilié au MFPF. Elle prenait des notes dans les rencontres. Elle était extrêmement active, Simone If. Et j'ai hâte d'aller voir notamment ses archives à la bibliothèque Marguerite Durand. Bon, son fonds d'archives personnel contient pas mal de trucs sur les débuts des mouvements dans les années 80 de structuration du mouvement TDS, qu'on trouvera sans doute aussi chez Griselda Réal, hein, mais voilà, on en est là.
Il y a aussi eu la création d'une putothèque virtuelle, sans savoir qu'il y avait une putothèque physique.
Mais c'est de elle dont je parle, hein. C'est de toi dont je parle. Je suis très contente que tu sois ici ce soir, on ne s'était jamais rencontrés.
Et du coup, c'est sur des comptes méga, donc pas liés à Google ou à autre. Et du coup, il y en a qui sont accessibles uniquement auprès des TDS. Et après, il y a aussi des comptes méga participatifs. Donc si vous avez des docus, des films, des articles et tout ça, vous pouvez les mettre sur ceux qui sont participatifs et ils seront mis sur des disques au cas où un jour méga nous censure ou je sais pas quoi.
Juste, effectivement, il y a à venir des cassettes audio et des films qui sont en cours de numérisation. Alors, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dessus. Du coup, quand ils reviendront, je vous invite à venir les visionner avec nous. Comme ça, voilà, vous saurez mieux les documenter que nous, je pense. Et aussi, ça me fait penser que vous êtes les bienvenus aux archives de Lyon, y compris pour des ateliers découverte des archives. Voilà, l'après-midi, c'est grand public, mais on fait aussi, par contre, des ouvertures exceptionnelles le matin pour des petits groupes qui auraient vraiment envie de se retrouver entre eux pour regarder des fonds d'archives. Donc, n'hésitez pas. Bon. On est sur Lyon, tout le monde peut pas venir, mais en tout cas, c'est hyper faisable.
Merci.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont été écartées du zine parce qu'il n'y avait pas assez de place ou parce qu'on a estimé qu'il fallait suivre le plan, je ne sais pas, des choses écartées avec regret ou pas? Certains contenus, des photos?
Avec regret, je ne crois pas. On a beaucoup réduit, on a essayé de tout mettre, mais de manière la plus succincte possible. Tout en se disant que de toute manière, si on avait plus à dire, on en ferait d'autres, des zines, et que c'était pas grave. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire premier zine. D'ailleurs, on sait qu'on va en faire d'autres. Et ce qui n'est pas dans le zine, c'est les choses qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir. Notamment les occupations des autres villes sont très succinctes parce qu'on en est qu'au tout début des trouvailles. Et on n'a pas encore eu le temps de trouver des gens qui pourraient écouter les archives sur place. Ou des archives. Moi, j'ai un peu espoir que les paroisses aient gardé des traces de ça. Voilà, du coup, ce sera mon activité de fin d'année 2025 d'appeler des églises. Et voilà, du coup, aussi sur. Je pense qu'il y a la question coloniale qui est complètement centre de la mobilisation de 75. Je pense qu'il y a eu d'autres choses aussi. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller chercher, mais qui, je pense, sera un peu plus dur comme travail d'archives, parce que plus on est minorisé, plus on est espacé de la société, plus les archives sont difficiles à trouver. Et voilà, du coup, c'est plus... Il y a plein de choses qu'on aurait aimé approfondir, mais on s'est vraiment concentré sur le contexte qui mène à juin 75 jusqu'à avril 76, qui est la dernière grosse action de ces mobilisés-là, en tout cas.
Oui, il fallait rester un peu concentré. Après, il y a une chose qui a bien fonctionné. Ceux